voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Toni Morrison, première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, nous a quittés le 6 août 2019. Célèbre pour ses romans Beloved, Jazz, elle revenait en novembre 2006 sur la mémoire qu'elle avait reçue en héritage dans ses entretiens exceptionnels que nous réécoutons cette semaine.
Bonjour, quatrième émission en compagnie de Toni Morrison. Hier, nous avons évoqué les silences et les traumatismes de la mémoire et de l'esclavage. Aujourd'hui, c'est la langue des fantômes que nous tenterons d'évoquer. La langue pour guérir, guérir de la frayeur des choses, de la frayeur du monde. Ce rapport aux revenants est sans angoisse. Est-ce qu'il est aussi le fait de ceux qui n'ont pas peur de la mort, car la vie est tellement douloureuse que la mort est à peine une épreuve? On a le sentiment, à vous lire, que la frayeur des revenants est surtout éprouvée par ceux qui ont des vies confortables. Et dans Beloved, je vous cite, l'une des héroïnes dit que puisque la mort ne représentait pour elle aucune terreur, elle parlait souvent aux morts, elle savait qu'elle n'avait rien à craindre.
You don't fear the ghosts because they're not fearful. The notion that they're scary is just a recent invention, I think. Some of them are scary, some of them are not. But the assumption is that we live in the assumption of my childhood was that everything was enchanted. They were very shrewd people, but they did not deny that aspect. It's still alive in religion. There's nothing bizarre about it. You really think that those saints are talking to you, listening to you, answering your prayers? That's ghost life. Someone lived a wonderful life, became canonized as a saint, so you have a conversation. Do they live in your life? Yes. You have something around your neck. You have something in your pocket. There's no difference between the human desire to have a relationship with dead people. Ghosts are not, you know, Casper the ghost. It's your projection, your desire, your thoughts about something over there that is really interested in you.
Mais je crois qu'on n'a pas peur des fantômes parce que ils ne font pas peur. Cette notion selon laquelle ils sont effrayants, c'est une invention tout à fait récente. Bien sûr, certains font plus peur que d'autres. Mais tout cela reposait sur une conviction qui a imprégné toute mon enfance et qui était que le monde était enchanté et tout était enchanté. Bon, bien sûr, c'était des gens malins et qui ne reniaient pas cet aspect-là. Et cet aspect que l'on retrouve encore dans la religion, par exemple. C'est un peu étrange quand on y pense. Les saints qui vous parlent, qui écoutent vos prières, qui exaucent vos prières. En fait, c'est un monde de revenants aussi. C'est parce que quelqu'un a mené une vie particulièrement exemplaire ou merveilleuse. Il a été canonisé, il est devenu saint. Et donc, vous commencez à nouer une conversation avec cette personne. Est-ce qu'ils habitent réellement votre vie? Bon, d'une certaine manière, vous les portez en vous. Ils sont autour de votre cou, au fond de votre poche. Il n'y a rien vraiment de très étrange à tout cela. Il s'agit en fait, bien sûr, de nos projections, de nos désirs et de nos pensées et de tout ce qu'on se dit sur ce qui existe vraiment là-bas et qui peut s'intéresser à nous.
Vous avez mentionné la religion et son rapport à l'invisible. Encore une fois, dans Beloved, vous convoquez la Bible en épigraphe. Je vous cite, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. » Donc cette fois-ci, il s'agit de l'épître aux Romains. On peut entendre en fait la citation de bien des façons. On peut considérer que celle qui se fait passer pour Beloved n'est pas Beloved. Il y a toujours la possibilité de l'imposture chez les revenants. Mais il y a aussi cette façon de réécrire l'histoire pour la corriger en faveur des opprimés. Est-ce que c'est aussi dans cette double acception que vous avez voulu citer l'épître aux Romains, Toni Morrison?
Yeah, that letter, that epistle to the Romans was about peace. Let's join together. I will call the ones that you hated part of my family. Mm-hmm. There's contention among you. So it was the notion of merging these two worlds. And her mother's doesn't fear death because she really thinks that there is an afterlife and that she will join not only her children, but her mother, her father, the people left in Africa. So it is a beyond the life relief from this one that is difficult.
Oui, cette épître aux Romains, en fait, ça parle de paix. Rejoignons-nous, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Cela veut dire il y avait des dissensions entre vous. Et c'est cette notion qui veut faire confluer, fusionner ces deux mondes. En fait, la mère ne craint pas la mort parce qu'elle croit en l'au-delà et elle pense qu'elle rejoindra non seulement ses enfants, mais aussi sa mère, son père et les ancêtres africains. Et je crois que c'est cela qui lui apporte un soulagement, car elle pense qu'il y a une vie après la mort qui va la consoler de cette vie ici-bas qui est si difficile.
Au-delà de la vie, vous avez mentionné donc l'imagination est une façon de faire le deuil. Dans votre roman Jazz en 1992, vous faites aussi une tombe à d'autres anonymes. Ce sont des anonymes que vous avez trouvés dans le livre de Van der Zee, le livre des morts de Harlem. Est-ce qu'il était nécessaire pour vous d'écrire l'histoire de ces anonymes alors qu'il aurait été peut-être plus facile d'écrire les heures de gloire du Harlem des années 20 en façon club de jazz et Cotton Club?
Which is why I wouldn't do it. Everybody writes about the heyday of the jazz period as though that's all there was. That's the media version of what life in Harlem was like. And I never mention the word jazz in the book, and there are no famous musicians in the book. It's something else that's going on, which is philosophical concept of jazz.
Eh bien, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait d'ailleurs, parce que tout le monde écrit sur cette âge d'or, cette période du jazz, comme s'il n'y avait eu que ça. Or, ça, c'est un petit peu la version médiatique de ce à quoi ressemblait la vie dans le quartier de Harlem. Vous aurez remarqué que dans mon livre Jazz, pas une seule fois, je n'écris le mot jazz et je ne cite aucun nom de musicien célèbre, etc. Car pour moi, il s'agit de dépeindre autre chose. Ce que j'ai essayé de saisir, c'est un peu le concept philosophique de ce qu'est le jazz.
Et quel serait le concept philosophique du jazz pour vous, Toni Morrison?
You practice and you practice and you practice so that you are able to improvise, to invent, to make it up. And even if you make a mistake in the telling, you still have to perform. And the mistake may lead you to another kind of perception. The narrator of jazz is the know-it-all. I know that woman, the way the book opens. And she tells the story of what's going to happen. But the characters escape her and live their own lives. So at the end, the voice has to acknowledge that if you listen to the other people on stage, if you're in a jazz combo, the music may go somewhere else that you didn't plan on at all. But what you do find sometimes is a brand new story, as in jazz, a story of reconciliation. Nobody shot anybody again in the last analysis. So that seemed to me to be structurally what jazz was about.
Et bien, comme pour toute musique, il s'agit de répéter, de travailler, et de travailler encore, et de répéter encore, de sorte d'être à même d'improviser et de pouvoir inventer. Et même si vous faites une erreur dans le déroulé du récit, eh bien, il faut quand même continuer à jouer. Et cela peut vous conduire à d'autres sortes de perceptions. La narratrice dans Jazz, c'est la femme qui sait tout et qui va vous raconter l'histoire, mais il se trouve que les personnages vont lui échapper pour mener leur propre vie. Et donc, finalement, la voix doit reconnaître que, eh bien, si vous êtes sur scène, si vous écoutez les autres musiciens qui jouent, si par exemple vous avez un bœuf, eh bien, en vous écoutant bien les uns les autres, vous allez voir que la musique peut aller ailleurs, dans un endroit autre que celui que vous aviez initialement prévu. Et puis parfois, vous découvrez que cela va vous conduire vers une histoire entièrement nouvelle. C'est ce qui se passe dans Jazz, et là, une histoire de réconciliation. Parce que, après tout, bon, personne n'a tué personne. Et je crois que, sur le plan structurel, c'est ça le jazz.
En 1993, vous devenez la 8e femme à se voir décerner le prix Nobel de littérature, la première femme nord-américaine. Est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était aussi à Harriet Wilson, la première femme écrivain noire publiée aux États-Unis en 1859, ou à Harriet Jacobs et à toutes celles qui vous ont précédé que le prix était décerné? Est-ce que vous aviez l'impression un petit peu d'avoir tout cet héritage-là avec vous?
Non. Non, I didn't feel anything like representing earlier people. But I felt very strongly about the future, that it was now possible for other younger writers, women, to enter that hallowed hall. That's what I felt.
Non, 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 pas du tout. Je n'avais pas du tout l'impression de représenter des gens qui m'avaient précédé. En revanche, ce que j'ai éprouvé très fortement, c'est que désormais, pour l'avenir, eh bien, il devenait possible à d'autres écrivains, femmes et plus jeunes que moi, eh bien, d'entrer à leur tour dans ce domaine.
On revient probablement à cette phrase qui est l'introduction du chant de Salomon. Les pères connaîtront peut-être la célébrité et les enfants connaîtront peut-être leur nom. Toni Morrison.
Might know their names.
Votre discours de réception du Nobel, donc, sans toutes ces femmes sur vos épaules, a le langage comme horizon. Vous parlez de la violence du discours anodin, de la norme qui exclut. Et puis, de cette façon-là, vous revenez d'une certaine manière à votre premier livre, L'œil le plus bleu, qui s'ouvrait avec une phrase apparemment innocente, la phrase d'un livre de lecture, qui dit « Voici la maison, elle est verte et blanche, elle a une porte rouge, elle est très jolie, voici la famille, maman, papa, Dick et Jane habitent la maison, ils sont très heureux. » Alors, le texte d'Emmanuel dans votre livre est progressivement compressé, vous le recopiez en notant la ponctuation, puis en faisant sauter les espaces entre les mots, vous éclatez les groupes de mots. Est-ce que c'était aussi un écho à la violence du message pour souligner l'arbitraire et la façon dont le langage, apparemment anodin, peut devenir indigeste, incompréhensible et finalement violent?
And meaningless. Totally meaningless. That life in the primer is a model in somebody's imagination, a national narrative that has virtually nothing to do with the way people really live.
Oui, c'est dénué de sens, c'est totalement absurde en fait. Et je crois que je voulais montrer par là que ce modèle, ce manuel scolaire qui est présent dans l'imagination de tous et qui se veut un peu l'incarnation du récit national, eh bien, il n'a rien à voir avec la façon dont vivent réellement les gens.
C'est une vengeance, d'une certaine manière.
Mm-hmm. Yes. A little saboteur.
Un petit sabotage, quand même. Hein. La violence, elle est aussi dans le fait de nommer et de donner un nom, véritablement. Ce qui est évident dans l'expérience de l'esclavage, parce que ce qui court dans votre œuvre, c'est la violence de la nomination des esclaves par leur maître. Les Blancs donnent des noms aux Noirs, comme aux chevaux de course, lit-on dans le chant de Salomon. des noms qu'il tenait de désirs, de gestes, de défauts, d'événements, de faiblesses, des noms comme des témoignages. Votre œuvre, c'est aussi le fait d'explorer le nom comme témoignage, Toni Morrison.
In the absence of one's own name, you give yourself a name, or somebody who loves you gives you a name, or you claim your own identity. You remember during the 60s it was X, Malcolm X, in a kind of resistance to the notion of belonging and to a family that had owned you. So the anonymity was preferable to the use of that name. And, you know, slavery is only possible with brute force again and again and again. And you need, I always wondered why there were so many slaves, millions. So you would think, well, in those days, if they had, I don't know, 6 million laborers, wasn't that enough? But the fact of the matter is, they died so fast. If you were 20 and you came to the United States as a slave, you were dead at 23. If you were 10, you might live to be 20. So they had to replenish them, which is why it took so long and lasted so long. It was not that they needed more. They needed to replenish the dead. You could only do that violently and by force. So that's part of the DNA of the country and the people who live there.
Quand on n'a pas de nom à soi, eh bien, on se donne un nom à soi-même. Ou bien c'est quelqu'un qui vous aime, qui va vous affubler d'un nom. Ou alors encore, vous revendiquez votre propre identité. Vous vous souvenez, dans les années 60, c'était X, Malcolm X. Et je crois que c'était un geste de résistance à cette notion d'appartenance et de résistance au fait d'avoir été considéré comme la propriété d'une famille à laquelle vous apparteniez et qui vous a nommé. Et donc l'anonymat était préférable à l'usage de ces noms qui avaient été imposés. L'esclavage ne peut exister que s'il est imposé par une force vraiment brutale. Et je me suis toujours demandé pourquoi les esclaves avaient été si nombreux en Amérique. Ils sont venus par millions, 6 millions de paires de bras de journaliers. Est-ce que ça ne leur suffisait pas? Eh bien, j'ai compris qu'en fait, c'était parce que les esclaves mouraient très rapidement, non seulement en mer pendant leur transport, mais aussi dès qu'ils arrivaient en Amérique. Si un esclave africain arrivait à 20 ans sur le sol américain, il n'était pas rare qu'il soit mort à 23. Bon, s'il arrivait plus jeune, à 10 ans, il avait peut-être des chances de survivre jusqu'à l'âge de 20 ans. Et voilà pourquoi il y a eu tant d'esclaves emmenés de force en Amérique. C'est simplement parce qu'il fallait remplacer ceux qui mouraient sous les coups. Voilà pourquoi il en fallait toujours plus. Et bien sûr, ce n'est que par la violence et par la force qu'on peut mettre en place un tel système, ce qui fait que je crois qu'il est inscrit dans l'ADN de ce pays et de ses habitants.
Mais dans cette violence, dans cet anonymat-là, il y a aussi une violence. La violence contient l'anonymat, l'anonymat contient la violence, Toni Morrison.
It's a protection and a rejection. I don't feel the violence there so much as in other ways. But naming oneself or being called, the men so often have nicknames that they're given. I didn't know any musicians, and I didn't know many of my father's friends. I didn't ever knew their names. Satchel Paige, Satchmo. Nobody said Louis Armstrong. They all had, all the blues singers, Muddy Waters, Howlin' Wolf. They were all nicknames, and that's what they went by. So they claimed another identity and rejected one that they felt was tainted by the so-called master.
C'est une protection, Et un rejet également. Mais la violence ne réside pas là tant que sous d'autres formes. Vous savez, les hommes souvent se donnent des surnoms entre eux. Moi, je ne connaissais aucun nom de musicien, ni les noms des amis de mon père, par exemple. Alors, on entendait des noms comme Satchel, Page ou Satchmo. Que des surnoms. Personne ne disait Louis Armstrong. Et tous les chanteurs de blues, tels Muddy Waters, Halloween Wolf, le loup hurlant, ils portaient tous un surnom. Donc, ils revendiquaient une autre identité pour rejeter une identité qui leur avait été imposée et qui était teintée et salie par celui qu'on appelait le maître.
Dans cette façon de se recréer un nom, il y a aussi une force poétique importante pour l'écrivain que vous êtes, Toni Morrison.
Well, there is force, yes, poetic. When you just decide to be called something else, particularly then, in those days, Pine Top. I mean, when you think of all those early musicians, you never hear their names. And I think it was true of particularly black men and many women as well, is to just get rid of the whole process of having a surname, a last name, that really wasn't yours. It belonged to the master. My maiden name is Wofford. My father's name is Wofford. There is a town in Georgia named Wofford. There is a college named Wofford. There were slave owners named Wofford. So that if I were interested in it, which I'm not, I would change my name, my maiden name, to something else. Actually, I didn't. I gave it to my son. So I'm not in that position, but I can certainly understand how that renaming of oneself would be important.
Oui, une force poétique, en effet. Il y a une force poétique à décider de se donner un autre nom. Mais surtout à l'époque, quand on pense à tous ces musiciens dont on n'entendait jamais le véritable nom et qu'on ne connaissait que par leur surnom. Et chez beaucoup d'hommes et de femmes noirs, il s'agissait de se débarrasser de toute cette lourdeur de ce patronyme, de ce nom de famille, qui n'était pas le leur véritablement, qui était celui de leur maître. Mon nom de jeune fille, c'est Wofford, et c'est le nom de mon père. Il y a une ville en Géorgie qui s'appelle Wofford. Il y a aussi une université qui porte ce nom. Il y a eu plein d'esclaves qui se sont vus donner ce nom. Donc, si ça m'intéressait, ce qui n'est pas le cas, eh bien, je changerai mon nom de jeune fille et je le transformerai en autre chose. Mais je n'ai pas fait ce choix puisque j'ai légué mon nom à mon fils. Donc, je peux quand même comprendre pourquoi certains jugent si important de se donner eux-mêmes un nom différent.
Vous écrivez, ou vous avez prononcé plus exactement dans le discours de Stockholm, seul le langage nous protège de la frayeur des choses sans nom, seul le langage est méditation. Dans L'œil le plus bleu, Cholly Breedlove se jette sur son épouse et il jette la somme, je vous cite, de toute sa fureur inarticulée et de tous ses désirs avortés. En la haïssant, il pouvait se conserver intact. Est-ce que l'innommé nomme la frayeur, comme vous le dites, mais est-ce qu'il crée aussi la haine, Toni Morrison?
He's a guy who batters his wife. Like many guys all over the world, because he is loathed by others. He loathes himself. He's ashamed. He has no power at all. So he exercises power on something smaller or weaker than him. Nothing particularly Charlie about that. Except he has a memory of a humiliation, a sexual humiliation, when he was a child.
Et ce personnage qui bat sa femme, comme tant d'autres hommes dans le monde entier, est uniquement parce qu'il se sent méprisé par les autres. Et de ce fait, il se méprise lui-même. Il a honte de lui. Il se sent totalement privé de pouvoir. Et donc, le peu de pouvoir qu'il a, il l'exerce sur quelqu'un de plus petit ou de plus faible que lui. Bon, bien sûr, ce n'est pas très brillant, mais bon, il a le souvenir d'une humiliation sexuelle lorsqu'il était enfant.
Ainsi s'achève cette quatrième rencontre avec Toni Morrison. Demain, comment écrire l'autre ?
For a train. Drunk, lying on the sidewalk, sleeping in the rain. And the people hide their faces, and they hide their eyes.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. À voix nue. Réalisation Dominique Briffaut. Prise de son Marie Le Peintre, Marcel Lebras. Coordination Daphné Abgral. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.